Excellences, frères et sœurs, l'entretien que je vous propose est motivé par la conviction que beaucoup de ce qui concerne Saint-Joseph nous est difficile d'accès parce que nous fréquentons trop peu l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vous propose un court voyage dans les récits bibliques en vue de redécouvrir certains textes nous aidant à comprendre quel père Saint-Joseph est pour Jésus et en quoi cette relation accomplit les Écritures. Un point de départ accessible est peut-être celui de notre propre expérience, alliée à l'autorité de la parole, qui atteste que le péché de l'homme, notre péché, possède une dimension transgénérationnelle. Il est sans doute important de s'attarder à rappeler cette vérité essentielle, car la culture occidentale glorifie la liberté de conscience individuelle au risque de la rupture de solidarité avec les pères. Chaque génération, et c'est un drame, est désormais obligée d'être son propre départ, sa propre origine. Or, le livre de la Genèse se présente déjà comme le théâtre de telle solidarité. Avant d'être l'histoire d'un peuple, la Genèse est le livre des récits concernant une famille particulière de génération en génération. Il évoque les destins entrelacés de trois générations, Abraham, Isaac et Jacob. Il aurait fallu en toute rigueur mentionner aussi Joseph, dont le cycle tient une place particulière. Rappelons ainsi comment, apeuré devant Pharaon, Abraham utilise par deux fois sa femme pour se protéger de ce qu'il croit être une menace et sauvegarder sa vie. Le souvenir du patriarche faisant passer Sarah pour sa sœur n'est pas des plus glorieux. Or Isaac fait de même. Le fils d'Abraham fait aussi passer sa femme pour sa sœur par peur de Pharaon. Cette lâcheté et ce mensonge ternissent également la troisième génération. Certes, Jacob n'a pas eu à se protéger de Pharaon. Mais pour échapper à la colère de son frère Ésaü, il se sert de ses épouses et de ses enfants comme bouclier humain, les plaçant entre lui et son frère qui arrive à sa rencontre avec une bande armée. La solidarité des générations est ainsi indéniable. Mais le récit biblique rapporte par ailleurs que ce comportement pécamineux n'est pas une fatalité. En effet, l'histoire de Boaz et de Ruth illustre au contraire qu'il est possible de réinventer le comportement individuel et de renouveler la généalogie. Ruth est fille des filles de Lot qui s'unirent avec leur père. Boaz est descendant de Judas qui coucha à l'aveugle avec Tamar en la prenant pour une prostituée. Mais leur droiture de cœur et leur soumission à Dieu permettront à Boaz et à Ruth de déjouer le poids du péché familial. Ils deviendront ainsi les grands-parents du roi David, figure du Messie. Par ailleurs, il est aussi intéressant de souligner comment dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un simple imitateur du Père. Nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 3, « Car Adonai réprimande celui qu'il aime, tout comme un père le fils qu'il chérit. » Et dans le Deutéronome au chapitre 1, « Tu as vu Adonai ton Dieu te porter comme un homme porte son fils. » La comparaison va dans ce sens, du Père vers Dieu. Car pour se faire reconnaître, Dieu fait appel à l'expérience première des hommes, celle de la paternité terrestre. Dès lors, la mission fondamentale des pères est de rendre cette comparaison possible. Tout père a pour mission d'imiter Dieu en sa paternité. Ainsi, que Joseph ait été choisi pour père de Jésus implique davantage que le respect des conventions sociales. Il en va d'une solidarité transgénérationnelle essentielle. En naissant à Bethléem, Dieu s'est rendu solidaire en premier lieu de son père Joseph et de ses ancêtres, et par là, de toute humanité. Saint Matthieu ouvre ainsi son évangile par une généalogie de Jésus. La solidarité dans le péché, pesant de génération en génération, est désormais assumée par le Christ. Mieux, en Jésus-Christ, nous sommes désormais solidaires dans la grâce. Le Seigneur fait davantage que porter le fardeau des familles humaines. Il introduit tout homme dans sa propre filiation par le jeu même de la solidarité entre les générations. La relation entre le Père et le Fils est le lieu d'un autre enjeu spirituel concernant la révélation de Dieu lui-même. Dans le rituel juif de la Pâque, le livre de l'Exode ou du Deutéronome en témoigne, l'enfant est en effet le centre de la célébration, sorte de maître de cérémonie, rythmant la liturgie de ses questions. La première vertu du procédé est de provoquer la parole paternelle. En l'interrogeant sur sa propre expérience, l'enfant engage le père à manifester sa paternité. La paternité, en effet, se noue dans la prise de parole. L'engendrement est de nature, dit Paul Ricoeur, la paternité est de désignation. C'est-à-dire que l'enfant ne peut reconnaître pour père celui qu'il a préalablement désigné comme son fils. En ce sens, toute paternité est adoptive. Or, cette désignation va au-delà de la simple déclaration « Tu es mon fils ». Elle se déploie dans le récit de la généalogie de l'enfant. Le père doit à son enfant de raconter le monde qui lui est antérieur et dans lequel il s'inscrit. Ainsi, chaque père du peuple élu raconte le credo familial consigné dans le Deutéronome. « Mon père était un araméen errant », Deutéronome 26. Or, dans le monde biblique, le père reçoit une tâche supplémentaire, celle de transmettre la loi et de mettre en lumière les obligations qu'elle suscite. Nous lisons en Deutéronome 6, « Le Seigneur nous ordonna de mettre en pratique toutes ces lois pour notre bien tous les jours, pour nous faire vivre comme en ce jour. » Ainsi, le Père, tout comme Dieu, donne la loi pour le bien et pour le bonheur de l'enfant. Soulignons que la loi n'est jamais séparée de l'histoire de sa donation. Elle n'est jamais reçue ni méditée hors de son contexte. Ainsi, le Fils est celui qui interroge et qui provoque au récit de l'ample généalogie de ses origines. Cela nous invite à considérer la généalogie du premier de tous les hommes, Adam. Nous lisons ainsi en Genèse chapitre 5. Voici le livret de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa les hommes, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'Adam au jour de leur création. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils comme sa ressemblance, selon son image, et il l'appela du nom de Seth. Cette notice pose notamment la question de la ressemblance et de l'image selon lesquelles Seth fut engendré. Adam a-t-il transmis la ressemblance de Dieu ? Le jeu des possessifs fait plutôt croire à une transmission des caractéristiques d'Adam lui-même. Or, il est frappant que le mot « tselem », qui veut dire « image » en hébreu, à part dans sa première apparition, en Genèse chapitre 1, est toujours utilisé en contexte idolâtrique pour désigner les images façonnées de main d'homme. Si l'engendrement humain se limite dès le départ à une simple réplication, le pire n'est-il pas à redouter ? Or justement, la Bible avertit que le Fils ne devrait pas être construit en miroir de son Père. Ce verset de la Genèse repère par sa formulation un enjeu crucial de la paternité que Paul Beauchamp formule ainsi « L'idole est manufacturée, ouvrage de mains humaines. L'homme, au contraire, ne fait pas son fils. Et il conclut, inéluctable est le choix entre le fils et l'idole. L'idole, nous le savons, est désignée par l'Écriture sainte comme l'ennemi principal de la vie spirituelle. Il est facile d'entendre ces avertissements comme une mise en garde d'un danger extérieur et païen. Or, l'idole dans la Bible est au contraire l'ennemi le plus intime de l'homme, se dissimulant au cœur de sa relation à Dieu. C'est pourquoi les prophètes et les sages insistent fermement sur la dimension manufacturée des idoles. Ces images sont fabriquées afin de fixer le divin, d'assurer l'homme de sa puissance et de sa disponibilité. Le philosophe Jean-Luc Marion écrit « L'idole ressemble au divin que nous éprouvons et le rassemble en un Dieu ». Telle est bien la nature de l'idole que dénonce la littérature biblique. Elle fait advenir le divin à la mesure de l'humain. Elle consigne Dieu à la mesure du regard de l'homme. Ainsi, le drame de l'idolâtrie est de se créer un vis-à-vis qui n'est qu'un reflet de soi-même. En outre, les idoles, dénoncent les prophètes, sont des objets inertes. Elles ne marchent pas. Elles sont incapables de pourvoir à leurs besoins. Elles sont envahies par la poussière et la rouille sans pouvoir s'en défendre. Et surtout, elles ne parlent pas. En s'entourant de telles images, l'homme se renie lui-même comme être vivant et parlant, comme image d'un Dieu qui vit et qui parle. En outre, l'homme finit par le ressembler. L'homme finit toujours par ressembler à ce à quoi il s'attache. Tous ces malheurs et leur cortège funeste pourraient suffire à la critique des idoles. Mais les prophètes voient plus profond, plus essentiel. Les idoles sont mensongères, nous dit le prophète Baruch. Non pas qu'elles disent des mensonges, puisqu'elles ne parlent pas, mais qu'à travers leur image, l'homme se fait le jouet d'un imaginaire divinisé. L'homme, en effet, confère aux idoles la capacité d'édicter une loi à laquelle il se soumet. Autrement dit, par le truchement de l'idole, l'homme énonce une loi qu'il se donne à lui-même. Tel est l'objectif de la lutte contre les idoles dans la Bible. Non pas éradiquer les religions païennes environnantes, mais éviter la contamination de la foi d'Israël par le jeu déviant de l'imaginaire. Il est en effet toujours aussi dangereux pour l'homme de modeler l'image d'une divinité que de satisfaire imaginairement le Dieu un et invisible. Ces images ont la capacité d'infléchir la relation au Dieu vrai et de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Façonné en idole, Dieu apparaît insatiable et monstrueux. Par exemple, en ce qui concerne la relation du Père et du Fils, Dieu semble exiger le sacrifice du Fils par le Père. Et ainsi s'interroge le prophète Michée, « Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme ?» Et malheureusement, les choses iront jusque-là, selon ce que dénonce le prophète Ézéchiel. « Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, tu les as sacrifiés à ces images !» Telle est l'horreur du mensonge de l'idole. Elle est le prête-voix d'une loi que l'homme édicte pour lui-même dans le but d'asservir autrui, en y sacrifiant la vie de son fils. Dans ce contexte, la question du fils est bien davantage qu'un rituel pédagogique pour les fêtes pascales. Le fils marche, le fils regarde, le fils écoute, il parle, il met le monde en question. En un mot, le fils rompt la logique idolâtrique en exigeant du Père une réponse en vérité. Ce dernier fait alors référence à l'action du Seigneur. Nous lisons en Exode 13, « C'est par la main forte que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. » Un renversement se produit alors, l'enfant apparaissant comme celui par qui Dieu visite l'histoire. Comme toujours dans la Bible, le face-à-face des générations est le lieu de la révélation divine. Le rôle de Saint Joseph est de l'ordre de ce combat. Joseph nous détourne de la tentation de consigner Dieu à la mesure de notre regard humain, notamment de ne voir en Jésus qu'un Dieu à notre ressemblance. Il ne suffit pas de croire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, car cela n'écarte pas le danger de servir fictivement l'homme ou d'adorer imaginairement Dieu. La difficulté essentielle de notre relation au Christ est dans l'articulation de l'humanité et de la divinité. Saint Joseph est le premier homme à avoir été confronté en pleine conscience à cette conjonction impensable et ingérable. Qui pose la question de servir Jésus avec réalisme et vérité trouve grand profit à contempler Saint Joseph. En se mettant à son école, lui qui a accueilli cet enfant qui marche et qui bouge et qui parle, cet enfant qui l'interpelle et lui pose des questions. Saint Joseph n'a jamais eu d'autre souci que la découverte de l'identité mystérieuse de son fils et le service de sa croissance. Ce parfait décentrement, cette absorption totale dans le service ont conduit Saint Joseph de la tentation de l'idolâtrie vécue par ses pères à l'adoration véritable pratiquée dans la Sainte Famille. C'est ainsi que l'enfant Jésus apparaît dans le Nouveau Testament dans l'exercice de sa faculté d'interroger. La première prise de parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile est mise en scène dans l'épisode du recouvrement au Temple. Luc, chapitre 2, « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. » Jésus est au Temple comme un disciple. Il écoute et il interroge, ce qui n'est pas une manière de faire la leçon, mais d'être instruit. Jésus s'insère dans la tradition de ses pères et se l'approprie de manière personnelle, c'est-à-dire qu'il prend peu à peu conscience d'un lieu d'être intime qui n'est pas celui où il a reçu la vie et la foi. Nous lisons à la fin du chapitre 2, « En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» « Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Au temple, le lecteur assiste à une toute autre liturgie que celle évoquée dans le livre de l'Exode. Mais, tant il est vrai que la vie de Jésus tout entière constitue sa passion, elle place déjà Jésus en maître de cérémonie pascale. La question qu'il pose invite ses parents à répondre en vérité, c'est-à-dire à témoigner de l'agir divin. Peu importe qu'ils n'aient pas compris ce qui leur a été dit. L'essentiel est qu'il désigne la main forte d'Adonai, son action salvifique. Or, c'est très exactement ce que Marie et Joseph font envers nous en redescendant à Nazareth, désignant de cette manière l'endroit où l'agneau pascal inaugure son œuvre rédemptrice. Nazareth ne peut pas être réduit à un terrain d'entraînement. Elle est déjà le théâtre du salut en acte. Comme le père exemplaire du livre de l'Exode, Saint Joseph ne met en avant aucune de ses qualités propres. Il n'évoque aucune autre expérience de vie que celle du salut. Il invite ainsi le lecteur de l'Évangile à descendre à Nazareth avec lui comme le Verbe descendu du ciel. Quant à Jésus, avec la véhémence dont les adolescents peuvent faire preuve, il a posé une question destinée autant à ses parents qu'à lui-même. Les questions des jeunes sont davantage le reflet de leur propre quête intérieure qu'une demande de réponse. Jésus ne réprimande pas ses parents, il ne cherche pas à les mettre en échec. Il formule respectueusement, sur le mode interrogatif, l'absolu de sa personne. D'ailleurs, Marie et Joseph ne s'opposent pas à cette formulation énigmatique, car saint Luc conclut « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. » Le voyage retour montre ainsi Marie et Joseph en disciples de Jésus. Ils ne sont pas les sujets de l'action. En retournant à Jérusalem, en quête de Jésus, ils n'ont pas mis la main sur Dieu, ils n'ont pas maîtrisé un fils qui s'était échappé. Marie et Joseph sont soumis à l'initiative divine en cette occasion comme en toutes les autres. Jésus choisit souverainement de retourner à Nazareth et d'y être soumis à ses parents. Voilà comment Dieu agit, voilà comment Dieu sauve. Tel est l'exemple que Jésus invite à suivre. L'épisode du recouvrement au temple, parce qu'il est unique dans l'Évangile et parce que Jésus est Dieu, pourrait cependant introduire l'image de Joseph comme un père démuni devant le caractère exceptionnel de son fils. En effet, on y voit Marie prendre la parole en son nom et Jésus poser une question énigmatique ne recevant apparemment aucune réponse. Une fois encore, la lecture de l'Ancien Testament permet de lever le voile sur la relation privilégiée de Jésus et de Joseph et sur l'importance de la parole de Joseph à Jésus. En effet, les questions que pose l'enfant découvrent le Père dans ce qu'il a de plus unique et de plus profond, dans sa relation et sa responsabilité face à Dieu. Il est ainsi particulièrement édifiant de considérer comment saint Joseph a médité le passage du livre de la Genèse où le jeune Isaac interroge son père Abraham, c'est en Genèse 22. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Nul doute que le cœur de saint Joseph fut transpercé par cette même question. Alors qu'Abraham répondait par une parole de confiance en l'action de la Providence, Joseph eut à aider Jésus à comprendre qu'il était l'agneau. Mais la réponse qu'il donne est la même. « Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Par ces mots, Abraham assure Isaac qu'il peut compter sur Dieu. Il dit aussi sa confiance que Dieu est au cœur de leur relation de filiation. Or, une particularité de la grammaire hébraïque permet de comprendre comment cette réponse fut celle de Joseph à Jésus. Ce verset peut en effet être compris comme un vocatif. « Je te dis à toi, mon fils, que Dieu pourvoira. » Ou bien comme une apposition. « L'agneau pour l'Holocauste est mon fils. » Par le vocatif, l'espérance est formulée. Pour Abraham, elle consiste à croire que l'agneau sera donné par Dieu, si bien que l'agneau du sacrifice n'est pas le fils unique, le fils chéri. Par l'apposition, Abraham témoigne de son obéissance, reconnaissant en son fils l'offrande destinée à Dieu et acceptant de s'en séparer. Les deux lectures doivent être tenues ensemble comme elles cohabitent dans la lettre du texte. Il n'y a pas à choisir l'une plutôt que l'autre. Or, saint Joseph reprend les dispositions intérieures d'Abraham et les porte à leur perfection. L'espérance de saint Joseph est la plus extrême qu'un cœur de père puisse éprouver, puisqu'elle consiste à dire « Je te dis à toi, mon fils, que Dieu a pourvu à l'agneau, tout en ayant pleinement conscience d'être le père du Messie annoncé par les Écritures, que son espérance le porte à reconnaître en Jésus. » En voyant Jésus, Joseph voit son espérance du Messie comblée. Dieu a donné l'agneau. Saint Joseph manifeste aussi l'extrême de l'obéissance. Ayant reçu et reconnu l'identité de son fils, il enseigne à Jésus « Tu es l'agneau pour l'Holocauste ». C'est-à-dire que l'éducation qu'il donne à son fils le prépare à la croix. Cette lecture de la Genèse va au-delà de certaines représentations artistiques connues. On peut évoquer par exemple le tableau de Georges de Latour, dans lequel le charpentier de Nazareth confectionne la croix de son fils. Dans ce type d'interprétation, Joseph façonne une poutre, mais Jésus seul perçoit en cet acte l'annonce prophétique de sa passion. Or, la réponse d'Abraham à Isaac nous enseigne que Saint Joseph savait à quoi il travaillait. Et pour rester dans l'univers de cette représentation picturale, nous pourrions dire que Saint Joseph a choisi une poutre convenable pour fabriquer sciemment le montant de la croix du Christ. Ce faisant, Abraham, comme Joseph, renonce à garder leur fils pour eux-mêmes. Remettant leur fils à Dieu, il le place en liberté devant le Créateur pour vivre une relation dont l'intimité et la formulation ne regardent qu'eux. C'est en s'effaçant qu'Abraham et Joseph sont devenus pleinement pères. Ainsi, tout père est-il invité sur la montagne où Dieu pourvoit. En conclusion de cet itinéraire scripturaire, évoquons un texte dont nous espérons qu'il lèvera un dernier obstacle à la compréhension de la paternité de Saint Joseph, qui fait imaginer la paternité comme une extériorité. L'exemple est tiré de la vie de David, un homme ayant eu de nombreux enfants, mais ayant mis beaucoup de temps à devenir père. Plusieurs étapes ont été nécessaires dans sa découverte de la paternité. Il y aurait beaucoup d'enseignements à tirer de son itinéraire. Ne gardons qu'une seule péripétie, celle de la mort de son fils rebelle Absalom lors d'une tentative d'usurpation du trône. Nous lisons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 19. « Alors le roi frémit. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et se mit à pleurer. Et il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils ?» Le cri « Que ne suis-je mort à ta place ?» manifeste que David n'est plus que père, qu'il est père en vérité et seulement père. Une fois encore, un verset de l'Ancien Testament dévoile le cœur de Saint Joseph et la passion qui fut la sienne en méditant sur la mort à venir de son fils Jésus. Le détachement dont la lecture de Genèse 22 témoigne n'est pas contradictoire avec un intense déchirement intérieur. On comprend que les mystiques aient estimé que la mort de Saint Joseph fut consécutive à l'intense souffrance causée par la perception anticipée de la passion de son fils. Cette perspective est cependant porteuse d'espérance, comme l'enseigne David au dernier moment de sa vie. Le roi, voyant la mort approcher, décide de faire monter Salomon sur le trône à sa place. En l'instituant, David invite Salomon à devenir à son tour un témoin de la loi et manifeste que Dieu lui-même est engagé dans cette succession. Au premier livre des Rois, chapitre 2, « Le Seigneur accomplira la parole qu'il m'a dite. » David fait ici allusion au serment prononcé par Dieu en faveur de la maison de David, c'est-à-dire de chacun de ses descendants. Cet engagement fut manifesté dès la naissance de Salomon, qui reçut alors un deuxième nom. Nous lisons en 2 Samuel 12, « le Seigneur l'aima et l'envoya dire par l'entreprise du prophète Nathan. Et il lui donna le nom de Yedidia, c'est-à-dire aimé du Seigneur, à cause du Seigneur. Aimé du Seigneur. Tel est finalement le nom de chaque enfant. Tel est le nom que Joseph révéla à Jésus en lui parlant du Père céleste. La lecture des récits bibliques enseigne ainsi que Saint Joseph n'a rien de l'homme taciturne qu'on imagine trop souvent, mais qu'il est au contraire un père exemplaire, capable de répondre à son fils et de répondre de son fils. S'il est un effacement dans la vie de Saint Joseph, c'est celui du serviteur inutile qui, ayant accompli sa mission de préparer l'agneau de Dieu, lui permet de prendre la place qui est la sienne. La parole de Saint Joseph a ainsi ouvert le chemin du salut. Je vous remercie de votre attention.